Culture Vin, bonjour. Oh, qu'est-ce que j'ai dit, Culture Vin? Mais non, je ne peux plus appeler l'émission Culture Vin. Culture Vin est une marque déposée par Claire Brosse, donc on n'a pas le droit de l'utiliser. Bienvenue, vous écoutez donc Vin et Divergence, les vins du Languedoc-Roussillon en particulier, et la civilisation du vin en général. Au sommaire de ce Vin et Divergence, donc le mariage, le Pax ou l'union libre, nous verrons du CIVL et d'Interoc. Et pour en parler, je reçois Florence Barthès, qui n'est pas encore arrivée, mais qui va pas tarder à nous rejoindre dans les studios, le directeur, la directrice générale d'Interoc, et Jérôme Villaret, délégué général du CIVL. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
La chronique, ensuite au sommaire, vin et littérature de Florent Robin. Salut Florent.
Bonjour Christian.
Aujourd'hui, tu vas nous faire la lecture d'un texte de Roland Barthes, on verra ça tout à l'heure.
Un très joli texte, Roland Barthes.
Un très joli texte, mais tu nous choisis toujours des jolis textes. Pas de revue de presse cette semaine, Catherine Bernard est dans les vignes, pas de Michel Raymonda non plus, qui se trouve quelque part dans la vitisphère, et pas de chronique œnotouristique, puisque Anne Schöndorfer est elle aussi quelque part dans la vitisphère. Mais Anne Serre est là. Salut Anne.
Bonjour Christian,
et
bonjour à tous.
On va parler aussi OGP, hein, avec nos invités. Qu'est-ce que je dis OGP? AOP, IGP, déjà je me mélange les pinceaux. Alors, à tout de suite. Hein. Somewhere else, a river runs. Somewhere else, the rains have come. Oh, I leap, I tumble and fall, and I won't keep, I'd lose it all. And the ocean knows each way. Pierce Faccini. Je l'aime. Je pensais pas que, en vieillissant, je deviendrais un fanatique d'un artiste. Ben, si, c'est foutu, ça y est. Je suis fanatique de Pierce Faccini. Et quand on sait les ravages que peuvent faire les fanatismes, il va falloir que je me méfie d'eux moi-même. Mais revenons à notre sujet du jour. Florence Barthès, bonjour. Vous êtes arrivée. Entre-temps, vous avez trouvé les studios de Divergence.
Oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait, j'ai trouvé.
C'est parfait. Alors, on vous reçoit à Divergence aujourd'hui tous les deux parce que... Alors, je ne sais pas trop si c'est un Pax, une union libre, ou peut-être les bancs sont déjà publiés, un mariage prochainement entre le CIVL, le Comité interprofessionnel des vins du Languedoc, et Interoc, qui est le syndicat interprofessionnel des vins de pays.
Doc.
précisons. Dites-moi alors, ce rapprochement, mariage, Pâques, union libre ?
Bah écoutez, c'est de jolies fiançailles. J'aurais
tendance à... Ah, des fiançailles, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je l'avais pas vu comme ça.
Le terme est un peu désuet, mais un peu romantique aussi.
Oui, oui, très bien.
Mais oui, disons que pour un mariage heureux, il faut de jolies fiançailles. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Et c'est un premier pas que nous avons franchi avec cette conférence de presse commune lundi dernier.
Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est un peu mariage comme les mariages modernes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps effectivement avant de se marier. Il faut pouvoir se connaître, il faut pouvoir travailler ensemble, il faut pouvoir faire la preuve de l'efficacité de cette union. Et donc c'est ce qu'on a envie de faire sur l'année 2010.
Alors union bien, certes, fiançailles parfait. Mais il y a une raison à ces fiançailles, donc c'est la réforme, non ?
Oui, alors la réforme, oui, parlons-en. Comme tout changement, elle a pu inquiéter. Or, il faut la voir d'un côté extrêmement positif, puisque c'est la première fois que les 22 pays et les appellations d'origine vont pouvoir se regrouper et offrir la réalité viticole du Languedoc-Roussillon.
Alors, je vais être un petit peu provocateur, vous ne m'en voudrez pas, déclencher la parole. C'est-à-dire quoi ? Vous ne reflétiez pas ces interprofessions l'une et l'autre d'un côté et de l'autre jusqu'à présent la réalité vitivinicole de la région ?
Mais ce qu'on peut dire, c'est que les AOC du Languedoc, c'est quelque chose qui a toujours été très clair. Ce sont des vins de terroir, ce sont des vins qui sont ancrés sur la zone du Languedoc et qui sont définis par des cahiers des charges autour de zones très délimitées. Jusqu'à présent, pour les vins de Pays d'Oc, même s'il y avait une communication autour du terroir, puisque Oc est réellement le terroir aussi, il n'y avait pas forcément dans la réglementation et dans le fonctionnement de nos institutions au niveau national, il n'y avait pas forcément cet état d'esprit. Aujourd'hui, les choses sont remises à leur place et effectivement, Interoc et les vins de Pays d'Oc et puis les AOC du Languedoc retrouvent leur place dans le terroir pour tous les deux.
C'est-à-dire aussi que pour être clair vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des auditeurs qui nous écoutent, on n'avait pas la possibilité dans l'ancienne organisation communautaire des vins de pouvoir mettre côte à côte pour un consommateur à la fois un vin de pays et un vin d'appellation. Donc la réforme communautaire a ce côté très positif. Comme nous sommes un grand vignoble, voire le plus grand vignoble du monde, c'est d'être extrêmement mixte comme vignoble. Donc quand vous vous rendez dans une grande surface jusqu'à aujourd'hui, vous avez une offre d'un côté appellation d'origine et de l'autre, vous aviez des rayons vins de pays, vins de table.
Il y a une raison à ça, c'est que pendant... vous allez me dire si je me trompe, mais... les AOC ont toujours regardé avec un petit peu de condescendance comme ça les 20 pays. Donc les 20 pays étaient censés être moins chers. Vous me dites si je dis des bêtises. Et les AOC un petit peu plus valorisés au niveau du prix, avec des assemblages, c'était un peu mieux, etc. Non, c'est pour ça qu'il y avait cette différence.
Je dirais en termes de prix, en termes de positionnement, c'est différent. L'impact du vignoble du Languedoc-Roussillon, c'est qu'il s'est reconstruit. Il s'est restructuré autour d'un vignoble de cépage, de vin de cépage, c'est-à-dire du chardonnay, du merlot, du cabernet sauvignon,
de la syrah,
etc. Et c'est tout à fait dans la tendance de consommation française aujourd'hui et internationale aussi. Et aujourd'hui, donner la possibilité de regrouper nos gammes sous une bannière régionale, donc le Languedoc-Roussillon, est très important parce que ça positionne la véritable identité du vignoble sur les trois couleurs, c'est-à-dire en rouge, en blanc et en rosé. Et on se retrouve donc le premier linéaire français puisque on est le plus grand vignoble de France.
Alors ça, c'est, je dirais, c'est évidemment quand on se fiance, on va pas commencer à dire qu'il y a des soucis. Mais moi, j'y reviens. La raison de ce changement, c'est quand même, on en parlait, la réforme. Alors, si je voudrais qu'on parle, avant de parler de la visibilité pour les consommateurs, on en parlera dans une deuxième partie, je voudrais qu'on revienne hein, à la cause de cette situation nouvelle dans le monde du vin, en tout cas en Languedoc-Roussillon, c'est la réforme de l'OCM, hein, oui. l'Organisation commune de marché. Donc c'est Bruxelles, encore, oh là là, Bruxelles, etc. Mais ils font des bonnes choses à l'Europe. Hein. Et c'est pas simplement les AOP, les IGP. Alors AOP, Anne, tu m'aides, appellation...
D'origine protégée,
IGP. Et IGP.
Indication géographique protégée.
Alors ça, ce sont les nouvelles dénominations qui existent pour les solides aussi, le fromage de chèvre, etc., etc., et qu'on applique au vin. Et donc, comme il y a cette... Vous me dites si je me trompe, hein, si bon, j'essaie de comprendre là-dedans. Comme il y a une réorganisation des appellations, des dénominations de qualité, etc., sur les produits agricoles, le vin, ben, il s'y est collé aussi, de fait. Et c'est cette situation, cette nouvelle indication et appellation qui fait qu'à un moment donné, vous réorganisez. Hein, c'est bien ça.
Mais c'est-à-dire on nous donne le droit aussi et la possibilité de nous réorganiser. Parce qu'on n'a jamais pu le faire avant, compte tenu que la répression des fraudes qui gère en fait la mise en place de l'offre qui est offerte aux consommateurs ne nous l'autorisait pas, tout simplement.
Je peux vous donner par exemple un exemple. Jusqu'à présent, nos deux vins... étaient agréés au départ de la propriété, ils étaient tous dégustés. Mais par contre, c'était deux organisations séparées. Il y en a une, c'était organisée par l'INAO, qui est l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée, donc dans le cadre des AOC. Et puis, pour les 20 pays, c'était Viniflore, qui était une autre organisation différente. Et effectivement, grâce à la réforme aujourd'hui, l'État aussi français est en train de faire la fusion des systèmes d'agrément et des systèmes de contrôle des cahiers des charges de nos produits. Et aujourd'hui, ce sera la même institution qui gérera les deux types de produits en termes de qualité.
C'est-à-dire on est tous passés à l'INAO, à l'Institut National des Appellations d'Origine, en tant que vin à indication géographique, qui regroupe à la fois AOP, ex-AOC, et IGP, ex-vin de pays.
Ce qui peut être intéressant pour la définition des différentes AOC, AOP maintenant, avant l'entrée en vigueur de ce nouveau régime, on entendait régulièrement un certain nombre de discours sur la multiplication des AOC, sur le fait qu'il était très difficile de les distinguer, de les valoriser, alors que finalement les 20 pays permettant davantage de liberté devenaient une solution plus intéressante. Est-ce que, selon vous, il va y avoir un report d'un certain nombre d'AOC qui vont choisir de ne pas devenir AOP mais d'adopter le statut d'IGP ? Est-ce qu'on a observé ça au niveau du Languedoc ?
À mon avis, c'est un peu tôt au niveau du Languedoc. Pour l'instant, les AOP, les AOC du Languedoc ont affiché la volonté de devenir des AOP. Mais il se peut qu'avec le temps, il y ait des réflexions qui sont en train de se monter.
Mais tout simplement, ça nous permet aussi de, sous le couvert des vins à indication géographique protégée, des vins à indication géographique, de déterminer une gamme et une offre aussi. Parce que les terroirs d'appellation sont beaucoup plus petits. En IGP, nous couvrons notamment au niveau du Pays d'Oc l'ensemble de la région, donc de Beaucaire à Perpignan. Donc ça va permettre de réorganiser les gammes, de se recentrer sur des vins de terroir au niveau des appellations et de pouvoir être en parfaite osmose, je dirais, et que nous, au niveau des IGP, on soit le socle de l'offre régionale, en fait. Voilà. C'est surtout ça, oui. Beaucoup plus, à mon avis, que des reports. Les reports sont possibles parce qu'il y a des cépages que l'on retrouve à la fois en appellation d'origine contrôlée, enfin AOP, et en vin de pays, notamment la Syrah et le Grenache. Mais au-delà de ça, je pense que ça va donner de la clarté à notre gamme.
Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des segments qui ont été définis à l'échelle européenne pour l'ensemble des vignobles de l'Europe. Et au niveau de notre vignoble à nous, on doit d'abord se préoccuper de la segmentation de l'offre par rapport à nos consommateurs. Et puis essayer de faire rentrer dans cette nouvelle segmentation qui apparaît, et pas le contraire. Pas partir d'une réglementation internationale et puis essayer de l'adapter pour que le consommateur s'adapte à cette offre. C'est bien le consommateur qui va commander la segmentation de l'offre du Languedoc.
Je ne suis pas sûr. Tu comprends tout, toi, Florent ?
J'essaye de suivre. Moi, je suis simple consommateur.
Et oui, c'est ça.
J'essaye de comprendre tous ces sigles qui arrivent un peu en avalanche.
Bon, les professionnels du vin qui nous écoutent, eux, sont déjà au fait de tous ces bouleversements. Mais c'est vrai que Nous, les pauvres consommateurs, j'avoue qu'on n'y comprend pas grand-chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette réforme qui vient de Bruxelles, ça fait quoi ? C'est-à-dire que je ne verrai plus AOC sur une bouteille, je verrai quoi ? AOP ?
Alors, le terme AOC va continuer à être utilisé sur les étiquettes. Les vignerons auront le choix.
Jusqu'à quand ? 2047, 2018 ?
Pour l'instant, la date n'est pas terminée, pas définie, mais réglementairement, ils auront le droit d'utiliser l'un ou l'autre des termes. Ils auront le droit d'utiliser le mot appellation d'origine contrôlée ou d'appellation d'origine protégée. L'essentiel, c'est que, à un moment donné, ils comprennent l'intérêt de ces termes-là.
Alors concrètement, on va essayer.
Ce qui est différent pour les IGP. Hein. Les IGP, il y a eu un débat national, donc dans la famille des vins de pays. Et il n'y aura plus sur les étiquettes vins de pays, mais il y aura indication géographique protégée pour l'ensemble de l'offre française.
D'accord.
C'est-à-dire un consommateur ne verra plus vins de pays sur l'étiquette, mais indication géographique protégée.
À partir de ?
À partir de cette campagne.
D'accord.
Voilà. On a une période de transition jusqu'à décembre 2010, parce qu'il y a des vignerons qui ont des stocks d'étiquettes chez eux. Donc on est parti d'un principe de période un peu tampon. Pour que ça leur permette de ne pas perdre de l'argent en fait, sur leur stock d'étiquettes. Mais à partir du 31 décembre 2010, sur les IGP, il n'y aura qu'IGP sur les étiquettes.
On se retrouve donc dans une situation où, par exemple, je prends un exemple au hasard. Une cave particulière et une cave coopérative. Allez, les deux, hein, puisque c'est ce qu'on trouve dans notre région, beaucoup de caves coopératives. Je me demande si c'est même pas la région avec les Côtes-du-Rhône où il y a le plus de caves coopératives.
Si,
hein,
oui.
On est bien d'accord.
Oui.
C'est à peu près
bon, alors prenons donc un vigneron indépendant et puis des coopérateurs. Admettons que... ils peuvent avoir les deux hein, dans leur production. Hein. Le vigneron indépendant, il peut avoir et de l'AOC et du vin de pays.
80% ouais. Pour nous.
D'accord. Et le coopérateur, pareil.
Pareil.
C'est-à-dire que rien ne change, parce que c'est ça que j'ai pas bien compris. Rien ne change si ce n'est l'indication, c'est-à-dire la dénomination, où il y a un cahier des charges qui est différent, une segmentation du terroir qui est différente, une qualité de vin qui est différente, des obligations en termes de vinif qui sont différentes, etc. C'est ça que j'aimerais savoir. Mais on va le savoir après avoir fait une petite pause énergique avec un groupe de Montpellier qui s'appelle Copson, et on revient sur ce sujet juste après. Clash of jokes with hopes, clash of words with thoughts, clash between the yes and the no, clash between the after and the before, clash of thoughts with sight, clash of the in with the out, clash of the day and the night, clash of the wrong and the right, clash of your skin with my eye, clash of your hand. With my back, clash of your heart with mine. Clash of your heart with mine. Clash of my place with your time. But tomorrow, I'll face the question mark on the wall. But after tomorrow, I'll go back home. Clash of fear with quiet, clash between the sun and the moon, clash between the lies and the truth, clash of accidental with the expected, clash between the bad and the good, and clash of what it is and what it suits, clash of what it is and what it could. We'll be right back. Cobson, groupe de rock montpelliérain qui vont bientôt faire parler d'eux dans l'Europe entière. On les aime bien à Divergence. Alors bon, je fais le candidat à deux balles. C'est vrai que j'ai dit que j'y comprends rien, mais c'est parce que je veux savoir ce qui se passe. Moi, on me dit ça va changer. Vous me parliez pendant qu'on écoutait Cobson d'une oreille. Il y allait avoir une certification qu'il y avait pas avant. Alors moi, j'ai tendance à penser comme un consommateur moyen. Mais qu'est-ce qu'il me raconte Donc alors avant on me vendait des trucs en me disant on est contrôlé, c'est super, on fait des efforts, on améliore tout, etc. Puis alors maintenant c'est encore mieux, etc. Donc avant c'était moins bien.
Non, c'est pas que avant c'était moins bien, c'était différent comme système.
Bien vu.
Aujourd'hui, ce qui est possible au niveau de la filière, c'est une certification qui est obligatoire, aussi bien en IGP qu'en AOP. Il faut avoir un organisme soit d'inspection, soit de certification.
Et qui sera cet organisme indépendant ?
Oui. D'accord. Totalement indépendant.
Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, parce que là, c'était qui faisait les...
Alors, en 22 pays, nous, comme disait Jérôme tout à l'heure, nous étions sous la tutelle de l'Office des vins. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes une ODG, un organisme de défense et de gestion, sous tutelle d'un organisme de contrôle qui, pour nous, est Bureau Veritas, Qualité France.
D'accord.
Oui. Okay. Et pour les AOC, le système avant était géré par les syndicats d'appellation d'origine contrôlée, les syndicats qui regroupaient tous les producteurs de l'appellation et qui effectuaient un contrôle qualitatif systématique sous la tutelle de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée. Et ce système, donc, dans la réforme, la réforme impose à ces syndicats à souscrire effectivement à un système indépendant, exactement comme sur le même principe que pour les 20 pays DOC, en fait. Par contre, les syndicats de producteurs d'AOC de la région ont souhaité se regrouper et construire un organisme d'inspection indépendant spécifique pour les AOC du Languedoc.
Globalement, ce que je perçois, moi, c'est que quelque part... On parlait de fiançailles tout à l'heure, mais c'est l'union fait la force. Parce qu'on est sur un marché mondialisé, on a des consommations de vin en France. Là, on est là avec... C'est le vin, c'est le grand Satan. Hein, attention, c'est pas bon pour la santé, ça
surtout
fait des
en
accidents,
France,
etc. Hein. Oui, c'est le French paradoxe, il est là aussi. Hein, c'est qu'on parle de notre culture, etc. Et puis à l'étranger, les gens nous regardent en disant...
Qu'est-ce que vous êtes doué pour vous tirer des ballons
ouais,
au pied.
Ouais, c'est ça. Donc là, on comprend bien, c'est l'union fait la force sur un marché qui est mondialisé, hein, où il y a une consommation du vin dans le monde qui augmente.
Tout à fait, elle augmente de l'ordre de 2% par an.
Et avec des nouveaux, par exemple, pour reprendre que la France, des nouveaux consommateurs de vin qui jeunes d'ailleurs, n'en déplaise aux défenseurs de la...
De l'aquaphilie rudimentaire.
Oui, de l'aquaphilie rudimentaire, ouais, effectivement.
Et c'est là, justement, qu'on a...
Laissez-nous boire notre petit coup tranquillement. Oh là là, c'est terrible, alors.
C'est là qu'on a un pari extraordinaire à gagner et qu'on peut dire que l'union fait la force, parce que la déclinaison de gamme que l'on peut offrir à des consommateurs est extraordinaire, parce qu'un jeune consommateur, il va rentrer sur des vins, entre guillemets, faciles à appréhender.
Alors attention, là je vais faire le petit message pour le CSA et pour le gouvernement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça y est, on peut y aller.
Voilà.
Consommer
nous
avec
parlons
modération.
De jeunes de plus de 18 ans.
Et voilà, on parle de jeunes de plus de 18 ans. Voilà. Évidemment. Et donc,
il faut qu'il y ait un consentement éclairé entre le consommateur et le verre. Alors allez-y.
Donc,
on est bon.
Au niveau de la consommation sur ces jeunes consommateurs, ils vont rentrer à la découverte des vins sur des vins faciles à aborder. Et ensuite, sur les tranches d'âge avançant, ils vont aller bien évidemment sur de la découverte et des vins beaucoup plus structurés. Et là, on a une complémentarité au niveau du Languedoc-Roussillon qui est extraordinaire pour ça.
Oui, alors on pourrait dire, vous me dites si je me trompe, on pourrait dire que, allez, accès au vin par quelque chose, un vin, on va dire, entre guillemets, facile, très, entre guillemets, encore peu complexe, genre les vins de cépage.
Oui, des vins sur le fruit,
arrive,
par exemple.
Voilà, c'est ça. Et après, on arrive à des assemblages, donc vers de l'AOC, et qui sera plus tard... donc, je ne sais pas si j'ai retenu la leçon de l'AOP.
Tout à fait.
Vous avez le droit de dire les deux.
AOC, AOP, ça va se jouer.
Il y a encore une période.
On fera une chanson dessus. Et là, on a des vins plus compliqués, etc. Sauf que ces dernières années, les vins ont tendance à devenir aussi très, un peu trop alcoolisés.
Alors, il y a un autre aspect par rapport à l'aspect consommateur, c'est que quand vous prenez la parole auprès d'un consommateur qui habite Londres ou qui habite New York ou Tokyo, lui, il ne comprend pas forcément la différence entre un AOP et un IGP. Par contre, certains consommateurs aiment bien acheter un Cabernet Sauvignon, une Grenache, une Syrah ou un Sauvignon. Et effectivement, il va rentrer par le cépage. Dans ce cas-là, l'offre IGP HOC répondra à cette demande. Et dans certains autres types de consommateurs, ils préfèrent rentrer par le terroir, ils vont chercher un Corbière, ils vont chercher un Minervois, ils vont chercher une AOC du Languedoc. Et dans ce cas-là, eh bien, l'offre AOP répondra à cette demande.
Alors, je parlais fiançailles. Moi, j'aime beaucoup. Vous disiez que c'est désuet. Mais justement, ce qui est désuet peut être marrant de temps en temps. Enfin, bon, moi, je suis pas forcément pour les fiançailles, mais moi, je suis plutôt pour l'union libre. Hein. Ça, c'est, qu'est-ce que vous voulez? C'est, on est comme ça à divergence.
On est surpris. Il fallait trouver une jolie image.
Mais par contre, dans ces fiançailles, c'est un fiançailles à deux. Mais là, il y a peut-être du triolisme qui pointe son nez parce que le CIVR, le comité interprofessionnel des vins du Roussillon, là, vient de faire paraître un communiqué de presse aujourd'hui, parce qu'ils ont appris hein, que vous mettiez ensemble, et ils ont dit ah ouais, mais nous on veut y être aussi.
Mais ça, c'est je dirais que c'est là, ça va avec la formidable saga d'un des plus grands vignobles du monde. C'est normal. Ouais. On a la plus belle gamme du monde aussi, puisque avec le Roussillon, on a une gamme de vins doux naturels qui est extraordinaire. Hein. On a même des bulles dans la région. Donc,
et les trois bons couleurs, vins dans le Roussillon, ça, il faut le savoir.
Il y a des vins extraordinaires dans le Roussillon qui ont une personnalité
donc vous allez
qui les accompagne.
Avec eux aussi, alors.
Oh ben là, il n'y a pas de souci.
Mais alors, c'est plus désuet, c'est de la transgression. Tout ça. Vous vous fiancez à trois. C'est très bien, mais c'est parfait. Anne.
On parle d'une grande saga, oui, la grande saga de l'union de ces interprofessions. On sait qu'il y avait eu une première tentative, enfin il y a eu et il y a toujours,
bien
Intersud.
Sûr. Bien sûr, c'est la fédération des interprofessions.
Voilà, la fédération des interprofessions. Donc là, on n'est plus dans le cadre d'une fusion. Mais il y a un certain nombre de choses qui fonctionnaient dans Intersud, qui ont fonctionné.
Et qui fonctionnent.
Et qui fonctionnent toujours, et où... Les conversations que j'ai pu avoir au niveau du CIVR, la question c'était comment est-ce qu'on peut ne pas mettre tout ça de côté, rester et continuer dans cette voie. Mais c'est votre intention aussi.
Alors au niveau d'Intersud de France, notre intention c'est de consolider la fédération qui nous amènera à terme à cette interprofession régionale. Mmh. Il faut savoir qu'il y a des missions, sans vouloir être trop technique, sur les interprofessions qui sont obligatoires, notamment le suivi des marchés et le suivi aval qualité par rapport aux vins qui sont mis en dégustation face aux consommateurs. Donc ça, ce sont des missions qui existent sur Intersud de France et qui sont en marche et qui évoluent dans un très bon sens. Le point de réflexion, on va dire, c'est plutôt la communication de nos vins et leur promotion, sachant qu'il y a une complémentarité entre les appellations en vin tranquille et la gamme des vins de cépage et des vins de pays, puisque au-delà des pays d'oc, il y a les vins de pays de département et les petites zones aussi, qui sont de très très jolies gammes en vins de pays. Et puis, il y a les vins doux naturels avec cette identité très forte qui appartient au Roussillon. Et tout ça fait qu'on doit le coordonner pour arriver à communiquer de façon impactante et à donner la réalité de la richesse de notre gamme et du vignoble.
Donc vous allez bosser avec le CIVR, de toute façon. Vous le faites déjà à travers Intersud, mais là, vos fiançailles, c'est quelque chose d'informel. Vous n'allez pas monter une structure,
Non,
donc,
non.
Vous allez mutualiser des actions en commun. Hein,
tout
c'est
à
ça
fait.
Alors, de quel type d'action vous allez mutualiser? C'est sur de la sélection au terroir ou c'est juste de la communication, de la commercialisation à l'international essentiellement peut-être?
Au niveau des interprofessions, notre mission est essentiellement une mission de communication, une mission économique. de compréhension des marchés et une mission technique d'amélioration qualitative des produits. Mais on doit pouvoir mutualiser dans ces trois axes. Alors la première mission pour nous qui est la plus simple, c'est l'économique, puisque l'analyse des marchés, elle est valable que ce soit en Roussillon, en Hoc ou en Languedoc. Et déjà aujourd'hui, nos trois services travaillent en commun.
Ils achètent à travers Intersud.
Tout à fait.
Oui, tout à fait.
D'accord. Intersud de France d'ailleurs.
Oui. Hein, Intersud de France.
Petite ambiguïté là, parce que la Sud de France est la marque Ombrelle et Intersud de France, ça fait Intersud.
Mais Sud de France est la marque Ombrelle de tous les vins du Languedoc-Roussillon. Intersud est l'interprofession de tous les vins du Languedoc-Roussillon hors vin de table. Ça me paraît parfaitement logique.
Très bien. Excusez-moi, Jérôme, je vous ai.
L'autre point mutualisable, effectivement, ça sera les aspects de communication. Oui. Mais effectivement, on doit le faire de manière intelligente, marché par marché, pays par pays et action par action. Donc nous, on a déjà commencé avec Interoc à travailler sur un programme commun de communication sur 2010. Mais maintenant, on va essayer de prendre
par exemple, qu'est-ce que vous allez faire en 2010? Oh, ah, il ne veut pas le dire. Bon,
on a un grand salon international à Montpellier au mois de février.
Vinisud. Et nous y serons avec Vin et Divergence et non plus Culture Vin.
Et donc, on a prévu de monter un stand commun, Interoc et AOC du Languedoc, ce qui en fera d'ailleurs le plus grand stand du salon. En
fait. Et ça, c'est la première fois, un stand commun.
Oui, c'est la première fois.
Oui, mais alors, donc, j'y reviens. Le CIVR, lui aussi, veut venir avec vous sur ce stand. Est-ce que vous allez lui faire une place dans le lit?
Mais on va lui faire une place de toute façon. Ils sont dans le hall 1 avec nous. Mais je voudrais revenir justement au positionnement du CIVR qui a une production de vins doux naturels, comme je l'expliquais. On parlait au début de l'émission, il a des vins tranquilles, mais je dirais que la particularité du Roussillon, c'est ses vins doux. Et on parlait du linéaire et des consommateurs, donc du rayon vin en grande distribution par exemple. Et le CIVR, lui, donc le Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon, est très extrêmement concentré, lui, sur un linéaire apéritif. Donc ce qu'il faut, c'est donner cette marge de manœuvre au vin doux naturel du Roussillon pour se démarquer dans le rayon apéritif et participer à la richesse de gamme qu'on va nous initier sur des vins tranquilles, Pays d'Oc et AOC du Languedoc.
Donc j'enfonce le clou, vous allez bosser avec le CIVR, il n'y a aucun souci. Donc s'ils n'étaient pas invités à votre conférence de presse, c'est parce que c'est un oubli.
Non, c'est pas un oubli, c'est simplement que nous avons des ponts possibles sur des communications communes que nous avons pu monter. Eux ont une spécificité de produit qui fait qu'ils ne sont pas immédiatement concernés parfois par des cibles que l'on peut avoir en commun à l'export ou en France.
Il y a quand même une production importante de vins vin secs, enfin de vins non doux naturels dans le Roussillon. Ça peut aussi.
Alors évidemment, pour ce qui est des vins secs, c'est-à-dire des vins tranquilles secs, ils nous rejoindront bien évidemment, puisqu'ils font partie de l'offre régionale. Mais enfin, la problématique des vins doux est quand même.
Est une problématique à part.
Ah, à part. Oui.
Un autre aspect, c'est pas un oubli. Lundi, la conférence de presse, c'était un affichage de nos présidents respectifs, le président Jean-Jean, qui est le président du CIVL, et le président Simonou, qui est le président d'Interoc, qui, eux, ont affiché fermement leur volonté d'aller vers ce regroupement et ces actions sont communes. On n'avait pas encore la réponse du CIVR par rapport à cet aspect-là. Je crois qu'on l'a ce matin.
Eh oui, très bien, c'est parfait. Donc, et puis, il y en a un quatrième, non?
Oui, alors le quatrième.
Parce qu'on l'oublie là.
Comme je l'expliquais tout à l'heure, donc c'est AIRSUD.
Ah, ça y est bien.
Donc qui est l'interprofession des vins de pays autres que l'IGP Pays d'Oc, qui est spécifiquement basé sur des vins de cépage. Et AIRSUD devrait aussi nous rejoindre, puisqu'il n'est pas possible de laisser de côté une autre partie de la production et du vignoble.
AIRSUD, vins de cépage, vous dites?
Non. Pays d'Oc, c'est vins de cépage.
Oui,
AIRSUD, c'est les vins de pays de département et les vins de petites zones. Exemple, Côte de Tongue, Côte de Thaux. Ces vins de petites zones font partie de l'interprofession AIRSUD.
D'accord. Donc, si je vois
marqué. Et en général, sont plus spécifiquement recentré sur une production de vin d'assemblage, en complémentarité avec les cépages Pays d'Oc.
Si je prends une bouteille et marqué par exemple vin Pays du Gard ou vin Pays de l'Hérault, c'est pas forcément Intersud. Ça peut être aussi vin Pays d'Oc.
Non. Vin de Pays du Gard ou vin de Pays de l'Hérault, l'interprofession qui les rallie, c'est Airsud.
D'accord.
Mais ça n'est pas Pays d'Oc. C'est un vin de pays de département.
Ah oui, donc on mettrait
une IGP de département.
C'est vin Pays d'Oc. Mais qu'il est bête. Mais bien sûr. Vin Pays d'Oc à ce moment-là sur la bouteille, ce qui est marqué quand c'est.
Ah non. C'est IGP Pays d'Hérault. Ou IGP Pays de Gard. C'est pays du Gard.
Tu suis toi, Florent ?
À l'évidence, c'est beaucoup plus net pour le consommateur.
Oui, c'est une marque différente avec quelque chose de différent sur l'étiquette.
Et dans la bouteille aussi.
Dans la bouteille.
Parce qu'en général, c'est moins spécifique que les cépages en Pays d'Oc.
Cette réforme, vous n'avez pas peur, en fait ?
Pas du tout.
Au contraire, elle est bienvenue ? Non, je dis ça parce que souvent, dans l'agriculture, en général, dès qu'il y a une réforme qui vient de Bruxelles, etc., tout le monde flippe en disant « Oh là là, c'est encore des technocrates, ils nous font des trucs ». Ce n'est pas le cas, là.
Non, ce n'est pas le cas parce que le Languedoc-Roussillon va pouvoir gagner en image et en valorisation qui correspond vraiment au travail qui a été fait par ces vignerons. Et pour nous, c'est l'essentiel.
Vous allez mettre donc beaucoup de moyens en commun, beaucoup d'énergie en commun pour faire mieux connaître et mieux apprécier les productions vitivinicole du Languedoc-Roussillon. Vous dites que vous serez à Vinissuite avec un gros stand, donc à deux, voire à trois, voire à quatre. Je ne sais pas, il va y avoir un linéaire sur
oui, c'est possible qu'il y ait un linéaire à Vinissuite.
Oui. Un gros truc. Et puis, une meilleure visibilité. Qu'est-ce que vous pensez de la crise, petite question de la crise viticole actuellement? Parce que il y a, j'entends bien, il y a une mobilisation de l'interprofession parce que mondialisation, et c'est pas rien sur des produits agricoles comme le vin, mais il y a aussi des viticulteurs et des viticultrices qui sont dans la merde.
Oui, la crise, elle est sévère, on ne peut pas le nier. On a des éléments qui nous arrivent tous les jours du vignoble sur les AOC, en particulier de prix très bas, en dessous des coûts de revient des entreprises. Donc ça veut dire que chaque fois qu'un vigneron vend une bouteille, il la vend et il perd de l'argent dessus. Et c'est la même chose pour les négociants. C'est une crise qui est une crise externe, c'est-à-dire qu'elle nous arrive et qui est un contre-coup de la crise mondiale financière, qui est liée au fait que les grands marchés consommateurs, les États-Unis, le Canada, l'Europe du Nord, la Grande-Bretagne ont réduit leur consommation de vin. C'est une crise aussi liée à la baisse de consommation en France, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est peut-être pour le Languedoc aussi une opportunité, parce qu'on a vu partout dans le monde les consommateurs descendre en gamme, à arrêter d'acheter des vins un peu des fois surpayés, à des prix très très élevés, et revenir vers des bons rapports qualité-prix. Et justement, l'offre Languedoc, que ce soit l'offre Pays d'Oc ou l'offre AOC du Languedoc, est positionnée sur ces segments-là.
Moi, je suis en train de penser au Bordelais. Hein ? Vous êtes en train de penser au Bordelais, qui sont des vins survalorisés. Ça, moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Vous achetez une appellation Bordeaux, franchement, des fois, ce que vous payez, ça vaut pas le coup. Vous mieux acheter un Languedoc. Ça fait peut-être chauvin et régionaliste, mais c'est dégustation à l'aveugle, il n'y a pas photo. Hein.
C'est vous qui l'avez dit.
Non, mais c'est moi qui le dis. Mais oui, mais on est sur divergence, on a la parole libre.
En tant que consommateur, moi, je te suis tout à fait là-dessus.
Hein, c'est vrai. Hein. Ouais. On dira pas pareil des Côtes-du-Rhône, par exemple. Quoique, par endroit aussi, un petit peu. Non, on va pas te taper sur tout le monde, etc. Bon, Alsace, encore, c'est autre chose. Ils sont bien organisés. Bon, bah, écoutez, on a dit plein de choses, mais il va être temps de la chronique littéraire de Florent Robin. On va faire une petite pause littérature.
Et oui, Christian, la minute littéraire dans Vin et Divergence, nouveau titre pour cette émission.
Ouais.
On avait abordé jusqu'à présent bien des romanciers, des poètes, et j'ai décidé pour une fois d'essayer un essayiste, un sémiologue.
Oh oh.
Et ce sémiologue, c'est Roland Barthes. Roland Barthes, un sémiologue qui aime la littérature, ce qui n'est pas le cas de tous les sémiologues, et qui a écrit Mythologie dans les années 60, où il est en train d'analyser j'allais dire, les icônes de la culture française. Et dans les icônes de la culture française, eh bien, il y a le vin.
Et oui.
Un petit extrait donc de Mythologie. L'article s'appelle « Le vin et le lait ».
Accrochez-vous.
Le vin est senti par la nation française comme un lieu qui lui est propre, au même titre que ses 360 espèces de fromage et sa culture. C'est une boisson totem correspondant au lait de vache hollandaise ou au thé absorbé cérémonieusement par la famille royale anglaise. Bachelard a déjà donné la psychanalyse substantielle de ce liquide à la fin de son essai sur les rêveries de la volonté, montrant que le vin est suc de soleil et de terre, que son état de base est non pas l'humide, mais le sec, et qu'à ce titre, la substance mythique qui lui est le plus contraire, c'est l'eau. À vrai dire, comme tous les totems vivaces, le vin supporte une mythologie variée qui ne s'embarrasse pas des contradictions. Cette substance galvanique est toujours considérée, par exemple, comme le plus efficace des désaltérants, ou du moins la soif sert de premier alibi à la consommation. Il fait soif. Sous sa forme rouge, il a pour très vieille hypostase le sang, le liquide dense et vital. C'est qu'en fait, peu importe sa forme humorale, il est avant tout une substance de conversion capable de retourner les situations et les états et d'extraire des objets de leur contraire. De faire par exemple d'un faible un fort, d'un silencieux un bavard, d'où sa vieille hérédité alchimique, son pouvoir philosophique de transmuter ou de créer ex nihilo. Étant par essence une fonction dont les termes peuvent changer, le vin détient des pouvoirs en apparence plastique. Il peut servir d'alibi aussi bien au rêve qu'à la réalité, cela dépend des usages du mythe. Pour le travailleur, le vin sera qualification, facilité démiurgique de la tâche, cœur à l'ouvrage. Pour l'intellectuel, il aura la fonction inverse. Le petit blanc ou le beaujolais de l'écrivain seront chargés de le couper du monde trop naturel des cocktails et des boissons d'argent, les seuls que le snobisme pousse à lui offrir. Le vin le délivrera des mythes, lui ôtera de son intellectualité, l'égalera au prolétaire. Par le vin, l'intellectuel s'approche d'une virilité naturelle et pense ainsi échapper à la malédiction qu'un siècle et demi de romantisme continue à faire peser sur la célébralité pure. On sait que l'un des mythes propres à l'intellectuel moderne, c'est l'obsession d'en avoir. Mais ce qu'il y a de particulier en France, c'est que le pouvoir de conversion du vin n'est jamais donné ouvertement comme une fin. D'autres pays boivent pour se saouler, et cela est dit par tous. En France, l'ivresse est conséquence, jamais finalité. La boisson est sentie comme l'équivalent d'un plaisir, non comme la cause nécessaire d'un effet recherché. Le vin n'est pas seulement un filtre, il est aussi acte durable de boire. Le geste a ici une valeur décorative, et le pouvoir du vin n'est jamais séparé des formes d'existence. Contrairement au whisky, par exemple, bu pour son ivresse, la plus agréable aux suites les moins pénibles, qui s'avale, se répète et dont le boire se réduit à un acte cause. Tout cela est connu 10 000 fois dans le folklore, les proverbes, la conversion et la littérature. Mais cette universalité même comporte un conformisme. Croire au vin est un acte collectif contraignant. Le français qui prendrait quelques distances à l'égard du mythe s'exposerait à des problèmes menus mais précis d'intégration, dont le premier serait justement d'avoir à s'expliquer. Le principe d'universalité joue ici à plein, en ce sens que la société nomme malade, infirme ou vicieux quiconque ne croit pas au vin. Elle ne le comprend pas, aux deux sens intellectuels et spatial du terme. À l'opposé, un diplôme de bonne intégration est décerné à qui pratique le vin. Savoir boire est une technique nationale qui sert à qualifier le français, à prouver à la fois son pouvoir de performance, son contrôle et sa sociabilité. Le vin fonde ainsi une morale collective à l'intérieur de quoi tout est racheté. Les excès, les malheurs, les crimes sont sans doute possibles, mais nullement la méchanceté, la perfidie ou la laideur. Le mal qu'il peut engendrer est d'ordre fatal. Il échappe donc à la pénalisation. C'est un mal de théâtre, non un mal de tempérament. Le vin est socialisé parce qu'il fonde non seulement une morale, mais aussi un décor. Il orne les cérémoniaux les plus menus de la vie quotidienne française, du casse-croûte, le gros rouge, le camembert, au festin. De la conversation de bistrot au discours de banquet, il exalte les climats, quels qu'ils soient, s'associe dans le froid à tous les mythes de réchauffement et dans la canicule à toutes les images de l'ombre, du froid et du piquant. pas une situation de contrainte physique, tempérament, faim, ennui, servitude, dépaysement, qui ne donne à rêver au vin. Combiné comme substance de base et d'autres figures alimentaires, il peut ouvrir tous les espaces et tous les temps du français. Dès qu'il atteint un certain détail de la quotidienneté, l'absence du vin choque comme un exotisme. Monsieur Coty, au début de son septennat, s'étant laissé photographier devant une table intime où la bouteille du Ménil semblait remplacée par l'extraordinaire le litron de rouge, la nation entière entra en émoi. C'était aussi intolérable qu'un roi célibataire. Le vin fait ici partie de la raison d'État. Voilà.
Over the pathless sky, over the pathless land, that's how we travel, but I got you to hold my hand. Now I don't mind, how could I mind? You see, when we know that we're lost, there's the chance we'll be found. Some say I'm working hard, some say I'm just a bum, some tell me I'm clever, others seem to think I'm dumb. Nah, I don't mind, how could I mind? I say there's no need to defend what we are, what we've done. Nah, you enchant my soul, but who lifts our spirit from the ground? What we give, we might get in return. 'Cause the universe is curved and the world is round. Over the pathless land, over the pathless sky, often in silence, but your eyes reply to mine. Now I don't mind, how could I mind? You say that beyond limitation I feel we could fly. Now you enchant my soul, but who lifts our spirit from the ground? What we give, we might get in return. 'Cause the universe is curved and the world is round.
Ah, Lisa Ekdahl, je te coupe la chique, Lisa, avec I don't mind, mais si je mind, je mind, Lisa. On va se quitter, on en a dit beaucoup des choses aujourd'hui, on va pas continuer sur la cuisine interne, ça va fatiguer tout le monde. Ce qu'on a, on aura compris que, ben, que ça bouge dans le monde du vin, que tout le monde se décarcasse, que, eh ben, voilà, on essaie de faire en sorte que ce produit de culture, comme vient de l'évoquer à travers le texte de Roland Barthes, Florent, eh bien, puisse être visible et parfaitement consommé partout dans le monde. Et donc, je ne fais pas l'apologie de l'alcool, je fais l'apologie d'un paysage, je fais l'apologie de pratique et d'une culture. Florence, vous nous conseillez quoi là maintenant avant de se quitter pour vous disiez au micro pour les fêtes, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse?
Ben moi, je vous conseillerais d'accompagner vos fêtes des vins du Languedoc-Roussillon.
Mais on va le faire.
Parce qu'ils sont là pour tous les goûts, pour toutes les cuisines, les occasions. Donc il faut surtout pas se priver.
Jérôme.
Oui, de même, c'est sûr que il faut profiter justement de cette offre qui est fantastique sur le Languedoc-Roussillon, sur ces perles que l'on a sur nos terroirs, que ce soit un Pays d'Oc, que ce soit un AOC du Languedoc, un Minervois ou Corbière. C'est pas la peine d'aller chercher en dehors de notre région ce qu'on a chez nous.
Vous êtes prudent, hein, vous délégués général du CIVL et Florence directrice générale d'Interoc, mais moi je peux me lâcher. Buvez plutôt un bon vin du Languedoc-Roussillon qu'un Bordeaux médiocre. Voilà, je vous remercie d'être venu sur Vin et Divergence. Anne Serre, à bientôt. On se retrouvera de toute façon, Florence et Jérôme, sur Vigny Sud en février à Montpellier. Florent, à tout bientôt, mon Florent. Ah, notre Élite Romane Divergence. Cette émission a été réalisée par Élie El-Kaïm. Coucou Élie, derrière la vitre. La programmation musicale est signée Manuel Plazin. Et j'envoie plein de bisous à Gilles Gouget, notre directeur d'antenne, qui, à la suite d'un accident de moto, s'est retrouvé immobilisé. Et il nous manque, même si de temps en temps, on le critique, parce qu'on critique toujours les directeurs. Je vous embrasse, à bientôt.
With her, walk with her, safe from her.